de le faire. Le groupe, souvent présenté comme faisant partie du très décrié système France-Afrique, paierait-il le recul de l'influence française en Afrique face à l'expansion notamment de la Chine sur le continent? Pour quelles raisons le groupe français envisagerait-il de céder ses activités? Nous en débattons ce soir avec trois invités. Yves Ekwe Amaizo, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, économiste et spécialiste en stratégie. Vous êtes également directeur de Afrocentricity. Et avec nous également Fanny Pigeot, bonsoir.
Bonsoir.
Ravie de vous accueillir. Vous êtes journaliste indépendante et collaboratrice notamment de Mediapart et également autrice de plusieurs ouvrages, dont Au Cameroun de Paul Biya ou encore de L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA en collaboration avec Ndongo Sambasila. Et avec nous également en ligne de Lomé au Togo, David Dossé, bonsoir.
Bonsoir.
Merci pour ce d'être avec nous. Premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Et nous tenons à souligner que des responsables de Bolloré, dont Dieudonné Gaïbaï, de la communication que nous avons contacté pour cette émission, n'ont pas souhaité y participer, indiquant que les informations sur la vente des activités de Bolloré en Afrique relèvent des rumeurs. Alors, je commence avec vous, Fanny Pigeot. Vous avez beaucoup travaillé sur le groupe Bolloré et ses activités, notamment au Cameroun. Dites-nous, comment se porte le groupe Bolloré aujourd'hui sur le continent?
Je pense qu'il fait toujours de bonnes affaires, peut-être un peu moins tout de même au Cameroun notamment, puisqu'il a perdu le contrôle
du port de Douala.
Du port de Douala en fin 2019, début 2020. Mais c'était vraiment une pièce maîtresse de son dispositif. En Afrique centrale, en tout cas, il ne faut pas oublier aussi qu'il a des procédures judiciaires engagées contre lui, en France notamment, à propos de la manière dont la concession du port de Lomé lui a été attribuée. Je pense que ça doit peser, toutes ces affaires judiciaires. Il y en a d'autres aussi qui sont engagées au Cameroun pour plusieurs de ces structures. Donc, il est possible que ça pèse dans son fonctionnement.
D'accord, on va en parler dans un instant, on va essayer de relever les facteurs qui ont pu justifier cette option que souhaite prendre Bolloré. Et je rappelle que pour le groupe, pour l'instant, il parle de rumeurs. Alors, je vais m'adresser à vous, Monsieur Dossé. L'attribution du port de Lomé fait l'objet d'une procédure judiciaire. Et comment vous avez accueilli ce dossier judiciaire au Togo, puisqu'aujourd'hui on relève ces demandes judiciaires, comme pouvant justifier la décision qu'envisagerait le groupe Bolloré?
Alors, pour nous, il est vraiment très important que cette décision de justice puisse aller à son terme, puisque quand on parle d'affaires Bolloré, quand on parle de pacte de corruption entre le groupe Bolloré et les tenants du régime au Togo, c'est essentiellement le port autonome de Lomé. Et ça, c'est vraiment un patrimoine national, une richesse nationale qui a donc été bradée. Et lorsque nous avons appris que M. Bolloré avait reconnu sa pleine responsabilité et qu'il voulait payer une amende de 12 millions d'euros, ce qui fait un peu moins de 8 milliards de francs CFA, moi, c'est ce que je prends au petit déjeuner, nous étions en courroux. Et donc, nous espérons vraiment que, d'abord, nous remercions cette juge qui a eu de l'audace, qui a refusé le paiement de cette amende, qui a souhaité que cette affaire aille en justice afin que toutes les responsabilités soient identifiées, reconnues, aussi bien dans le groupe Bolloré qu'au Togo. Parce que pour nous, il est quand même important qu'on puisse dire quels sont ceux qui ont, du début de la chaîne jusqu'en fin de chaîne, bénéficié vraiment des avantages partisans, des avantages induits liés à ce pacte de corruption. C'est vraiment un acte mafieux, je crois qu'il faut le dire. Ce sont des actes répréhensibles et il faut vraiment encourager la justice française au moins à aller jusqu'au bout, puisqu'au Togo, il y a très peu de chances que la justice togolaise accepte de se bouger sur ce dossier.
Soulignons que la justice française poursuit d'ailleurs son enquête pour donc l'attribution de concessions portuaires non seulement à Lomé au Togo, mais aussi à Conakry en Guinée, et que Vincent Blore a été mis en examen. Alors, Monsieur Ekwe Amaizo, on parle là d'une entreprise qui a quand même 11% de, qui fait quand même 11% de son chiffre d'affaires ou d'un groupe qui fait quand même 11% de son chiffre d'affaires de ses activités sur le continent. Comment expliquer que aujourd'hui le groupe Bolloré puisse envisager de céder ses activités en Afrique?
Merci beaucoup. Je vais rétablir quelques points, en tout cas de mon point de vue. La première chose, j'ai cherché de partout. Je n'ai pas vu officiellement la société Bolloré SE indiquer qu'elle allait vendre la plupart de ses activités.
En... Évidemment, nous avons parlé de la presse française, notamment.
D'accord, mais bon, le moment, voilà, donc,
et nous avons souligné que le groupe Bolloré parlait de rumeurs.
Je ne dirais pas que c'est la rumeur. Je veux te dire que pour le moment, le groupe Bolloré n'a rien dit. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut d'abord bien comprendre qu'il y a quatre grandes branches de Bolloré SE. Transport logistique, la communication, on viendra dessus tout à l'heure, les stockages d'électricité, vous les connaissez avec les pierres, les batteries, les voitures, batteries et systèmes, et surtout, et ça on l'oublie tout le temps, c'est que Bolloré gère tout un ensemble de participations financières qui lui permet de faire des tas de transactions entre des sociétés, des fois officielles, des fois moins, en cascade. Parfois logées en Afrique, donc de droit africain, parfois bien sûr à l'étranger. Et il gère aussi, on ne le sait pas, regardez Barkhane, etc., allez savoir qui c'est qui fait la logistique de Barkhane.
Donc, la force française dans le Sahel.
Bien sûr, donc tous ces éléments-là doivent, d'une manière ou d'une autre, ne peuvent pas, ou plutôt traînent dans le domaine du secret de défense. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas savoir aujourd'hui, à moins qu'il annonce lui-même. Ce qui pose d'ailleurs le problème qui a été dit tout à l'heure, pourquoi il s'est levé pour aller plaider coupable. Alors, première chose, il a beaucoup...
Sur le cas du Togo.
Oui, on va y revenir, mais j'essaie d'abord de cadrer bien le cadre. Il fait partie des 500 plus grandes sociétés mondiales cotées en bourse. Sachez que cette société, Bolloré SE, paye des dividendes en cash. En cash, j'insiste sur le mot. C'est très important. Et vous savez très
c'est-à-dire
bien le
problème ses actionnaires.
Du cash en Afrique. Alors,
pardon, pour être clair, monsieur Amaizo, il paye ses dividendes.
Je ne parle pas encore de corruption. Je parle de la façon dont travaille, partiellement en tout cas, de ce que nous savons, cette société. Les informations comptables, par exemple, on a cité le Togo, mais tous les autres pays, on ne les a pas au niveau local. On aimerait bien savoir la liste du personnel au Togo. On aimerait savoir la liste du personnel au port, au Cameroun, ou à Maurice, partout où il est en réalité. Parce qu'on voudrait savoir les 11% que vous avez cités. Je suis économiste, je suis aussi dans le management. Je suis entièrement contre ce chiffre. Je ne sais pas d'où ça sort.
Parce que vous estimez, quand j'écoute votre analyse, qu'il est sous-estimé.
Attendez, quand je dis largement, je suis autour des 70-80. Après mes recompositions, mes calculs, Bolloré fait l'essentiel de son argent sur le territoire africain. D'autant plus qu'avec ces sociétés croisées, il est aussi dans les plantations. Donc, ce qu'on appelle nous les vaches à lait en marketing, il récolte de l'argent. Et ce que vous ne savez peut-être pas, la plupart de ces investissements qu'il fait, il n'est pas majoritaire. Il n'est pas majoritaire. J'insiste beaucoup dessus. Il trouve un système, et c'est juste un génie en management, il trouve un système de minorité de blocage, ou minorité en tout cas pour décider, et ça lui permet d'avancer. Et ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible sans les chefs d'État africains. Il faut qu'ils trouvent un partenaire, en tout cas local et à très haut niveau. Et ça ne s'arrête pas au niveau des chefs d'État, il doit impliquer les banques locales. Et si les banques locales sont souvent en train de couler ou être privatisées, on peut facilement retrouver pourquoi. Et ceux qui nous ont fait couler, les trois quarts du temps, sont promus. Donc j'essaie de monter toute une chaîne superbement intelligemment organisée et sur laquelle on ne peut pas juste débattre comme ça. Il faut faire de véritables enquêtes économiques et autres pour pouvoir arriver à trouver la situation. Ce qui explique d'accord. D'ailleurs, pourquoi la juge française n'a pas hésité à ce que tout le dossier, sachez, je rappelle le terme technique, c'est comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Et qui implique les crimes en fait économiques.
Merci.
Et pour savoir ça, il faut que ça aille au tribunal correctionnel, qui permet d'ailleurs aux Togolais de se porter partie civile.
Merci Monsieur Amaizo. On va découvrir tout à l'heure ce qu'en pense Fanny Pigeot, qui a travaillé justement sur les activités du groupe Bolloré en Afrique.
Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Quoi joue Vincent Bolloré? S'apprêterait-il à vendre ses activités en Afrique? Nous en parlons ce soir avec David Dosset, premier porte-parole du Front Citoyen Togo Debout, l'économiste Yves Ekwe Amaizo et la journaliste indépendante, collaboratrice notamment de Mediapart, Fanny Pigeot, et que nous allons écouter à l'instant. Alors, Fanny Pigeot, avec les propos de M. Amaizo tout à l'heure, qui a énumérer un certain nombre de dysfonctionnements dans le fonctionnement, selon lui, des activités de Bolloré en Afrique. On a l'impression, finalement, en l'écoutant, que lorsqu'on parle de Bolloré sur le continent, est-ce cela est synonyme d'affairisme, de mauvaises pratiques?
Alors moi, je me suis intéressée donc au cas du Cameroun, où effectivement, un certain nombre de choses lui sont reprochées, du moins il y a des affaires qui sont apparues. Je m'étais intéressée notamment dans un article il y a 2 ans, je crois, paru chez Mediapart, des soupçons qui ont émergé dans les années 2000-2010 à propos de la manière dont il gérait une partie des droits de douane. Et ouais, il y avait eu à l'époque une commission mise en place, une commission d'enquête mise en place par le ministre des Finances de l'époque. Et il était apparu qu'il y avait eu des problèmes de falsification de documents douaniers sur des histoires d'acquis à caution. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais toujours est-il que le groupe avait reconnu le problème à l'époque. Aujourd'hui, il revient dessus en disant que non, tout était en règle. Mais il y a un certain nombre d'affaires comme ça qui ont émergé. Il y a aussi des soupçons de corruption, qui, en tout cas une plainte contre X pour corruption et favoritisme qui avait été déposée dans 2006, je crois, c'était contre X, mais ça visait l'attribution du terminal à conteneur du port de Douala à l'époque. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que cette plainte a été instruite par un juge d'instruction à l'époque et finalement, ce juge a été brutalement dessaisi de ce dossier en novembre 2008 précisément. Il a été affecté dans une autre ville que Douala où il était en poste. Et c'était simplement quelques jours après qu'il ait voulu convoquer des dirigeants de la multinationale, dont son directeur général, Vincent Bolloré, pour être entendu comme témoin. Voilà, ça fait partie des quelques affaires qu'on connaît au Cameroun, mais il y a beaucoup de zones d'ombre qui demeurent.
Oui, mais lorsque on entend M. Amaizo parler de paiement en cash des dividendes, il parlait également des erreurs volontaires ou non sur le bénéfice que rapporteraient ces activités en Afrique. Est-ce que ce sont des éléments qui vous semblent vraisemblables ou peut-être que vous avez observé aussi?
Il y a beaucoup de zones d'ombre, comme je disais. Effectivement, moi, dans ce que j'ai trouvé à propos de ces documents administratifs officiels falsifiés, ça laisse penser qu'il y a un problème de fonctionnement. Il y a quelques jours, dans le cadre d'un autre procès qui avait été, engagé après une plainte par un chef d'entreprise, Citrafer, à Douala. Il y a le tribunal de grande instance de Douala a estimé que le Camra, une filiale du groupe, avait supprimé...
Le transport ferroviaire.
C'est ça, transport ferroviaire. Et donc cette filiale avait supprimé, fabriqué des preuves, avait propagé des fausses nouvelles et enfin, était aussi coupable d'avoir fait un faux témoignage, d'avoir produit un faux témoignage. Voilà, ça c'est une affaire en plus qui arrive, qui n'a peut-être pas encore été médiatisée d'ailleurs.
D'accord. Et je rappelle aussi que, en tout cas, vous aussi, vous avez fait l'objet de plaintes. Un article que vous avez fait dans Mediapart, le groupe Bolloré a porté plainte contre vous, mais qui a récemment perdu en appel dans cette affaire. David Dossé, M. Amaïso a également parlé de l'acquaintance, selon lui, une fois encore, entre le groupe et certains chefs d'État africains et même des responsables économico-politiques africains. Est-ce que vous pensez que toutes ces affaires judiciaires, le contexte aujourd'hui qui a changé, qui n'est plus le même au regard aussi de la concurrence de plus en plus forte des autres acteurs dans le domaine portuaire, tout cela peut être poussé Bolloré aujourd'hui à en tirer les conséquences et envisager son retrait du continent? Professeur Dossé, allez-y s'il vous plaît.
Voilà, je disais ce que moi j'ai retenu de ce que M. Amaïso a dit, entre autres, c'est que manifestement, il y a beaucoup d'intérêts croisés dans cette affaire. Et comme vous l'avez dit, il y a certainement une implication d'hommes politiques africains, togolais notamment, d'opérateurs économiques africains, avec des banques probablement nationales qui ont joué et qui ont participé à ces pratiques de mafia, à ces rackets. Mais il y a également certainement, comme il semble le dire, une implication d'acteurs politiques français. Et donc, tout ça fait dire qu'il y a donc des intérêts croisés et nous espérons que si la justice doit aller au bout de la procédure, que nous n'allons pas nous retrouver vraiment comme étant le dindon de la farce. Quand je dis nous, je parle du peuple togolais, je parle des peuples africains et qu'on va vraiment situer les vraies responsabilités afin qu'on puisse rendre justice à nous qui avons beaucoup perdu dans cette affaire. Et cela, pour moi, rappelle simplement le visage de la France-Afrique qu'on ne veut plus voir, avec ses accointances, ses pactes de corruption, justement. Et j'espère que ce qui a été dit récemment à Montpellier va permettre vraiment à la justice française d'avoir les coudées franches pour mener une vraie enquête, comme M. Amaïso le préconise. Parce que, c'est ce que j'avais dit, il faut qu'on situe les responsabilités. Ce sont des pratiques qui sont inacceptables au XXIe siècle, quand en Afrique, nous nous plaignons de sous-développement, nous nous plaignons de pauvreté, qu'on brade notre patrimoine et qu'à la fin, on vient nous proposer une amende de 12 millions d'euros.
Pardon, M. Dossé, je ne voudrais pas vous interrompre, mais je tiens quand même à préciser que nous ne faisons pas le procès. Il n'est pas question ce soir de faire le procès de la manière dont le groupe Bolloré mène ses activités sur le continent, mais plutôt de comprendre pourquoi il envisagerait de se retirer du continent. Donc pour vous, au regard de ce que vous décrivez, si évidemment cela est vrai, ce serait une bonne chose de le voir éventuellement vendre ses parts ou ses activités à d'autres entités en Afrique et se retirer.
Parce que, voilà, une chose, comme je l'avais dit, il faut qu'on puisse en fait changer la façon de coopérer, la façon de collaborer avec ces multinationales. On essaie de comprendre pourquoi est-ce que le groupe voudrait vendre, et je pense que c'est ce que M. Amaïso a voulu dire. Rien ne prouve que ce groupe veut vendre. Est-ce que ce n'est pas de la poudre aux yeux? Est-ce que ce n'est pas une stratégie pour cacher autre chose? Et c'est là où j'insiste pour dire qu'il faut que la justice française puisse avoir la liberté de faire son travail de façon complète.
Merci.
Alors maintenant, si véritablement le groupe Bolloré se sent en danger en Afrique avec la concurrence de la Chine, de la Turquie ou d'autres pays, effectivement, si on vous accuse de pacte de corruption, si en plus vous devez faire face à une forte concurrence, peut-être que stratégiquement, finalement, il vaut mieux se départir d'un certain nombre d'actifs en Afrique pour donner le sentiment d'avoir fait peau neuve et permettre de repartir autrement.
Merci.
Je pense que là, les experts en stratégie financière ou économique pourront mieux l'expliquer. Mais pour moi, ce qui est important, en fait, sans vouloir faire ici le procès de M. Bolloré, c'est qu'on puisse espérer un véritable changement en termes de façon.
Merci, monsieur Dossé. Merci, pardon. Alors, voilà. Monsieur Amaïso, expliquez-nous, hein, vous qui avez dit que Vincent Bolloré fait ferait 70% de son bénéfice de ses activités sur le continent. Il bénéficierait du système en quelque sorte France-Afrique avec tout son corollaire. Pourquoi peut-on bénéficier d'un tel terrain favorable et décider quand même ou envisager quand même de se retirer ? Pour vous, à quoi il joue alors ?
Mais écoutez, je vais quand même replacer un peu les choses. D'abord, pour le Cameroun, sachez qu'il y a des victimes des chemins de fer suite à un accident qui ont porté plainte et qui n'ont toujours pas trouvé satisfaction et l'affaire a disparu dans la nature.
Revenons sur ce qui nous...
Non, je sais bien, mais il faut quand même rappeler...
Intéressons-nous à l'angle qui est le nôtre.
Tous ces éléments-là font partie du fait que si demain on vend telle ou telle partie, c'est pour faire disparaître toutes ces traces-là. La deuxième chose, il est très important que dans le cas togolais, il y a quand même une reconnaissance de corruption. Donc s'il y a un corrompu, il doit y avoir un corrupteur. Lequel est l'un ou l'autre, c'est au juge de nous le dire. Du coup, derrière cela, vous avez de l'information à pouvoir. Parce que le parquet financier de Paris, ils ont bien de l'information. Et ils ont bien dit que ça portait atteinte aux populations togolaises. Et donc, il faudrait bien qu'on puisse arriver, partie civile, à accéder au dossier pour savoir qui est le corrupteur.
Monsieur Amaïso, s'il vous plaît, une fois de plus, est-ce que vous pouvez répondre directement à la question pourquoi, malgré tout ce que vous décrivez comme étant la bonne santé ou le contexte africain favorable à Monsieur Bolloré, déciderait-il de se retirer ?
Mais c'est vous qui dites qu'il veut se retirer.
Écoutez,
je suis dans le business ici aussi. Je peux mettre une annonce que je vends ma voiture et je regarde les offres. Si les offres ne me satisfont pas, mais je ne vends pas ma voiture. Si les offres même...
D'accord, vous supposez qu'il y a une manipulation ? Est-ce qu'il s'agit de manipulation ?
Qui j'essaie de vous dire.
Et à qui profiterait-elle ?
On est quand même en train de dire des choses sur lesquelles la société elle-même n'a pas fondamentalement parlé. Et donc je suis très prudent, parce que c'est quand même des journalistes qui disent ces choses-là. La société peut très bien faire un coup, et c'est un spécialiste des coups dans le management, il veut savoir à quel prix on peut acheter telle ou telle partie de ses biens sur le territoire africain, dans le cadre de sa stratégie globale. Sachez en plus qu'il peut acheter, vendre, revendre, et il a beaucoup de partenaires, je vous l'ai dit au départ, beaucoup de partenaires.
Donc d'après vous, il s'agirait d'une fuite organisée ou d'une stratégie?
Attendez, vous allez le voir minoritaire dans telle société, pourtant, il y a deux, trois autres partenaires qui sont là, proches de lui, et ensemble, ils arrivent à faire passer les décisions. C'est très important de comprendre la mécanique, comment ça fonctionne. Je ne dis pas nécessairement que ce soit quelque chose d'illégal en tant que tel. Maintenant, pour ce qui est des bénéfices, n'oubliez pas qu'on est dans la zone franc. Donc, écoutez, c'est la France qui décide de donner, après tout, le fait de pouvoir convertir ce franc CFA, qui n'est converti qui sable nulle part, sauf justement en Afrique, zone franc et le trésor français. Et c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement, finalement, ce qui se passe réellement en Afrique. C'est pour ça que je mets en cause les 11% dont vous avez parlé. Et c'est très important de montrer aussi qu'il n'y a aucun risque de change quand il passe ses dividendes à partir de l'Afrique ici et là, en tout cas en zone franc, vers la France. Et il peut le réinvestir tout de suite dans les autres activités, pour que ce soit la batterie ou autre. Et c'est très important de le comprendre. Et puis, il est au carrefour de la logistique en général. J'ai cherché les chiffres de la Banque mondiale.
Dans votre analyse, est-ce que...
Où il est présent ne s'est pas amélioré. Pourtant, il est dans la logistique.
Compte tenu de ce que vous savez et que vous nous faites partager ce soir, compte tenu de ce que vous savez du fonctionnement du groupe Bolloré en Afrique et de ce que vous nous dites ce soir, a-t-il intérêt à rester ou à quitter le continent ?
Vous ne pouvez pas dire ça à un homme d'affaires. C'est un PDG. Un PDG, vous nous savez, il est mondial, ce monsieur. C'est une multinationale, voire une transnationale. Et donc, il a peut-être intérêt... Vous savez qu'il est maintenant dans les îles vers Hong Kong, ou je ne sais pas où, là-bas, où il est en train de faire passer tout le système des voitures électriques et les batteries. Donc, quel intérêt il a dans un système où, d'abord, il a ce système de procès sur le dos, il ne sait pas trop comment il va s'en sortir, et il vaut mieux dans un pays où ça marche beaucoup mieux, et surtout, il a moins de difficultés. Je vous donne une petite information. Sachez que le prix des containers a doublé, triplé, quadruplé ces derniers temps.
Avec la relance des activités économiques.
Ça veut dire quoi concrètement pour lui qui est dans la logistique ?
Il gagne plus d'argent.
En beaucoup de cas, il ne va pas pouvoir tout transférer sur les populations. Donc à un moment donné, sa marge va quand même diminuer. Donc un homme d'affaires avisé, écoutez, il va investir ailleurs. Donc je n'ai pas de problème sur sa stratégie en tant que telle de se désinvestir ici, d'aller réinvestir ailleurs. C'est le boulot de tout PDG. Et il le fait de manière remarquable. Le problème qu'on a, c'est qu'il le fait avec des partenaires qui sont des États, et que ces États donnent ce qu'on appelle la garantie ou la contre-garantie de l'État. Donc la plupart des dettes sont à la charge des États et donc des populations. C'est cette partie-là qui nous dérange, parce que ça empêche le transférer aux populations, et du coup, si on veut calculer, on peut se donner combien d'hôpitaux n'ont pas été faits au Cameroun ou au Togo ou ailleurs.
Merci.
C'est ça le fond du problème.
Merci
ce
beaucoup.
N'est pas le problème de la stratégie qu'il veut partir ou pas, il fait ce qu'il veut. Et il est libre. Notre problème de fond, c'est de savoir pourquoi une partie des dividendes ou des richesses ou des bénéfices qu'il crée, on le félicite d'ailleurs pour ça, est
Monsieur Samaïso, je suis obligé de vous interrompre à tout de suite.
Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et avec nos trois invités de ce débat dans cette émission, nous essayons de comprendre pourquoi Vincent Bolloré voudrait vendre ses activités en Afrique. Et ses invités sont Fanny Pigeot, journaliste indépendante et collaboratrice notamment de Mediapart, Yves Ekwe-Maizo, économiste spécialiste en stratégie, et David Dossé, premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Alors, Fanny Pigeot, en 2010, ou plutôt en 2001, vu le groupe Vincent Bolloré se retirer du tabac, où il était quand même leader, c'était bien en 2001, pour investir massivement dans le transport et la logistique, qu'il veut vendre aujourd'hui, peut-être pour d'autres activités. Et on parle de plus en plus de gros investissements, de recentrage sur les activités médiatiques en France, où il détient déjà de certains médias.
Oui, alors, moi, je peux pas effectivement dire quelle est sa stratégie, puisque ça reste encore très flou. Peut-être, comme le disait Yves Ekwe-Maizo tout à l'heure, qu'il essaie simplement de faire évaluer la valeur de ses activités en particulier. Je reviens au Cameroun, parce que c'est le cas que je connais un peu.
Sur lequel vous avez beaucoup travaillé.
Et au port de Douala, dont il a perdu la concession du terminal à conteneurs, mais il faut savoir que cette bataille...
On va dire malgré le soutien et la pression de l'Élysée, hein, qui avait dépêché quand même sur place le ministre Le Drian.
Voilà, mais il faut pas aussi négliger le fait que la bataille continue en fait dans les coulisses. Il n'a pas, me semble-t-il, renoncé à essayer, en tout cas, de récupérer cette activité au port, même si ça semble très compliqué, parce que le pouvoir politique camerounais, lui, semble être bien décidé à faire en sorte que l'État garde le contrôle de cette concession. Donc, effectivement, n'ayant pas d'éléments précis pour savoir ce qui pourrait l'amener à essayer de vendre ou à évaluer la valeur de ses activités, je ne pourrais pas en dire plus. Mais voilà, il y a en tout cas des éléments.
Mais de votre point de vue, les éléments qui ont été donnés ce soir, notamment par M. Amaizo, sont-ils assez objectifs et crédibles pour justifier éventuellement le désir du groupe de se retirer de ses activités sur le continent?
Mais je crois qu'il disait plutôt que rien ne montrait qu'il voulait se désengager de ce côté-là. Peut-être qu'il veut se recentrer aussi. Moi, j'ai eu des sources, mais je n'ai pas vérifié, 10 ans, l'an dernier ou il y a 2 ans, je crois qu'il avait aussi envie de développer des activités davantage en Asie. Peut-être qu'il y a ça, mais encore une fois, je pense qu'effectivement, pour l'instant, il gagne beaucoup d'argent sur le continent africain.
Il n'a pas de raison de partir.
Oui, sauf, encore une fois, le fait qu'on ne peut pas aussi négliger le fait qu'il a de plus en plus de problèmes dans certains pays avec la justice ou avec certains pouvoirs politiques. Encore une fois, je pense au Cameroun.
Monsieur Dossé, est-ce que vous voyez le groupe se recentrer davantage sur d'autres activités comme les médias, ou alors vous considérez malgré tout que ça reste, cette information, hein, un coup de bluff peut-être pour sonder juste le marché?
Alors pour moi, c'est difficile de me prononcer exactement, mais on peut émettre des hypothèses. Supposons qu'il veuille effectivement se recentrer. Il laisserait quand même une activité qui lui rapporte beaucoup d'argent en Afrique. Mais si je me place du point de vue des Africains que nous sommes, sincèrement, ça ne me pose pas un problème, puisque le port reste chez nous, et nous aurons peut-être ainsi la possibilité de mieux, manœuvrer en termes de futurs partenariats avec d'autres partenaires, avec peut-être une meilleure implication d'acteurs économiques locaux. Donc, si M. Bolloré, dans sa stratégie, estime qu'il vaut mieux se recentrer sur d'autres continents ou sur d'autres activités, bon, ben, tant mieux. Ce qui est important vraiment pour nous, c'est que on commence enfin dans toutes ces affaires à réfléchir à comment faire pour que ces patrimoines nationaux puissent rapporter le maximum d'intérêt pour les peuples qui sont quand même en souffrance.
Merci. Yves Ekouamaï, on va finir avec vous en quelques minutes. Dites-nous, quelle serait éventuellement la position, la vision de l'Élysée, qui l'a toujours, d'après certains experts, soutenu pour gagner les départs de marché en Afrique, si jamais effectivement Bolloré devait se retirer?
Moi, je ne dirais pas ça. L'Élysée, quand vous leur posez la question, ils nient tout en bloc. Hein. Alors, moi, ce que je dirais surtout, c'est que quand vous parlez de communication, d'abord, ce n'est pas tout ou rien quand on fait du management. Bolloré peut très bien se retirer, devenir une position minoritaire, tout en gardant le contrôle en Afrique. Et vous ne le verrez pas. Vous verrez quelqu'un d'autre, un autre nom, et ça peut fonctionner. Première chose. Donc, je reviens. Pour le moment, on n'a pas l'information officielle. Deux, il peut le faire pour savoir quelle est la valeur de tel ou tel actif. Deux, le recentrage. Oui. Mais pourquoi vous voulez que ce soit seulement dans la communication? Et je vous dis qu'il y avait quatre grands axes. Il peut aller complètement dans la participation des portefeuilles, et on gagne beaucoup d'argent par la spéculation. Il peut très bien aller, comme il est dynamique et tout, retourner dans le domaine de l'électricité, les systèmes, vous savez, on parle de beaucoup de nouvelles technologies disruptives, là, etc., qui avancent. Hein. Et c'est un monsieur qui est quand même avant-gardiste. Et donc, le côté Asie, ça doit certainement l'intéresser, et je pense qu'il y est déjà.
Donc pour vous, il anticipe.
Pour les véhicules électriques, qu'il avait fait plus ou moins faire couler un peu la mairie de Paris là-dessus, et il est allé quelque part en Asie. J'en ai pas de détails ici. Donc deux. Troisième chose, pour répondre bien à votre question, les liens sont plutôt pour eux, et on ne peut pas apporter de preuves aujourd'hui entre lui et certains dirigeants politiques français. Et donc, s'il a la communication, il fait donc une partie de la campagne de certains au pouvoir en France, ou candidats en France. N'oubliez pas que le problème togolais est bien d'avoir financé une campagne électorale au Togo. Donc, je ne sais pas s'il est spécialiste de ça pour le Togo, mais s'il était, alors il pourrait aussi le faire ailleurs, et plus particulièrement en France. Mais non, ça, vous rentrez dans des considérations que nous, qui sommes des chercheurs, essayons de trouver des éléments de preuve, on ne peut pas avancer. Mais la possibilité et la plausibilité, elle est bien là. Mais non, moi, je dirais surtout, n'essayez pas d'être manichéen. Tout ou rien, ça n'existe pas dans le business, encore moins en management. C'est un homme extrêmement intelligent, et je rappelle que sa société aujourd'hui, pour ce qui est du Togo en tout cas, a reçu, vous savez, il y a deux parties hein, dans l'histoire du plaidé coupable. Il y a pour les sociétés et il y a pour les individus. Pour les sociétés, c'est réglé. Hein. Ils ont payé 12 millions. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez rien dire, en gros, à cette société Bolloré SE. Hein. En tout cas, pour le cas togolais. Et je pense que d'autres vont arriver dans la même veine. Donc ils préfèrent peut-être, pour tel ou tel cas, bon, s'éclipser un peu. Et pour ce qui est de lui-même, c'est le cas que disait M. Dossé tout à l'heure, ça, c'est encore actif parce que, quelles que soient les tribulations qu'il a faites, le fait que Mme la juge qui a géré ces dossiers ne peut pas revenir sur sa propre décision.
Allô, M. Maïzo, navré, Yves Ekouamaïzo, économiste et spécialiste. Merci à vous, M. Maïzo, économiste. Merci à la journaliste indépendante et collaboratrice de Mediapart, Fanny Pigeot, et à David Dossé, premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout, d'avoir participé à ce débat. Et bonsoir.